France Culture, il est 12h30. L'heure des informations avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Les Iraniens votent depuis ce matin pour élire un nouveau parlement dans un scrutin où les conservateurs partent favoris, portés notamment par un ressentiment populaire contre le président modéré Hassan Rouhani.
La menace sécuritaire liée à l'extrême droite est très élevée en Allemagne.
Oui, déclaration ce matin du ministre de l'Intérieur après l'attentat raciste de Hanau qui a fait 9 morts mercredi soir. De son côté, la ministre de la Justice estime que la violence d'extrême droite représente actuellement le principal danger pour la démocratie de son pays. Figure atypique, certains diront truculente, du Parti Socialiste, l'ancien ministre et sénateur Michel Charras est décédé ce matin des suites d'une longue maladie à l'âge de 78 ans. Enfin, la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus ancienne de France, procédera ce soir à l'arrêt définitif de son premier réacteur. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt. Et puis à 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Avec comme invité Maboula Soumaoro qui publie Le Triangle et l'Hexagone aux éditions La Découverte.
Merci et à tout à l'heure. Les Iraniens sont donc appelés à renouveler leur parlement aujourd'hui et d'ores et déjà, il ne fait guère de doute que dans leur très grande majorité, ils ne se rendront pas aux urnes comme la loi pourtant les y oblige. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'exercice a été presque entièrement verrouillé. Le Conseil des gardiens a écarté une bonne moitié des 14 000 candidats qui s'étaient déclarés pour la plupart au sein des rangs des réformateurs. Preuve que le régime n'entend pas encourager le moindre débat ou pire, le moindre soupçon d'opposition. Ensuite, et même si ces élections surviennent dans une période trouble pour la République islamique, secouée notamment ces derniers mois par des manifestations, le sursaut national semble s'être complètement évaporé face à un système qui conserve une redoutable capacité répressive. Enfin, le désenchantement et les frustrations liées à la stagnation à la fois politique et économique ont refait surface, de sorte que le camp des modérés est aujourd'hui très largement discrédité pour ne pas avoir tenu ses promesses. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alors, au vu de ce contexte général auquel on pourrait d'ailleurs encore rajouter la guerre larvée avec les États-Unis, eh bien, ces élections législatives devraient, selon toute vraisemblance, Valérie, aboutir à la monopolisation du pouvoir par les ultra-conservateurs.
Oui, tout à fait. Le camp des conservateurs semble avoir mobilisé ses électeurs comme ce matin dans ce bureau de vote installé dans une mosquée au nord de Téhéran. Des électeurs avaient apporté des portraits du général Soleimani tué dans une frappe de drone américain en janvier dernier et bien sûr du guide suprême Ali Khamenei qui a appelé les Iraniens à se rendre massivement aux urnes. Enveloppée dans un tchador noir, Chala, enseignante, ne veut pas s'avancer sur les résultats, même si tout le monde pense que les conservateurs sortiront grand vainqueur de ces élections législatives.
C'est difficile de faire des prévisions en Iran, mais les gens pensent que les conservateurs ont un meilleur positionnement. En Iran, le peuple veut de l'indépendance et les conservateurs possèdent cette faculté.
Être indépendant de qui ?
Être indépendant de tous les pays qui sont contre nous et spécialement l'Amérique.
À l'extérieur de la mosquée, nous croisons deux femmes, une fille et sa mère. Paris, 35 ans, nous explique pourquoi elle n'est pas allée voter.
Pour mes propres raisons, je préfère ne pas voter. On n'a plus beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Tout va de plus en plus mal. Trouver un travail, c'est le plus gros problème pour les jeunes. Et peu importe si ce sont les conservateurs ou les gens plus ouverts d'esprit ou les libéraux, ils ne peuvent rien changer ici. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à l'époque d'Ahmadinejad ? J'ai voté pour M. Rouhani, mais rien n'a changé.
En Iran, on sait que l'abstention profite en général au camp conservateur, lequel devrait sortir renforcé de ce scrutin. Les bureaux de vote ferment à 18h ici, mais la durée du scrutin est souvent prolongée au-delà, notamment dans la capitale, Téhéran.
Merci Valérie Crova en direct donc de Téhéran ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Les Algériens bouclent aujourd'hui dans la rue et pour la 53e semaine consécutive de marche hebdomadaire, un an de contestation populaire inédite, l'occasion en ce premier anniversaire d'existence de s'interroger qu'est-ce qu'aura apporté celle qu'on n'hésite plus à qualifier désormais de révolution du 22 février. Plusieurs victoires ont été arrachées, à commencer bien sûr par l'annulation du cinquième mandat auquel prétendait l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, suivi de sa démission, la chute également de sa fratrie qui détenait le pouvoir, la fin par ailleurs des oligarques les plus toxiques. En revanche, le système politique contrôlé par l'armée qui dirige l'Algérie depuis son indépendance n'est lui toujours pas tombé, raison pour laquelle, à l'aube de son an 2, la contestation doit sans doute aujourd'hui se repenser. Les manifestants doivent-ils accepter la main tendue par le président Tebboune au risque d'être avalés par le régime? Doivent-ils se structurer pour participer aux jeux institutionnels au risque d'afficher des clivages et des contradictions? Seule certitude, l'ampleur des cortèges aujourd'hui sera un test de la détermination du mouvement. Après des semaines de négociations, forces de sécurité afghanes et talibans se sont entendus ce matin pour ouvrir dès demain une période de réduction des combats devant durer une semaine. Alors, sans même parler d'une hypothétique paix durable en Afghanistan, on est là évidemment encore très loin, ne serait-ce que de l'idée d'un quelconque cessez-le-feu entre les deux parties en conflit. Reste que ce ralentissement des combats, s'il devenait effectif, pourrait possiblement ouvrir la porte, par exemple, à la signature d'un accord sur un retrait des troupes américaines en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Aussi insolite, a priori, que puisse paraître donc un tel accord sur une réduction des combats durant une semaine, faut-il y voir malgré tout, Claude, un signe de ce que les talibans, qui depuis 18 ans ont toujours refusé de négocier avec le gouvernement de Kaboul, seraient aujourd'hui disposés à d'éventuels pourparlers?
Oui, c'est même précisément ce qu'a écrit noir sur blanc hier le numéro 2 des talibans dans un éditorial paru dans le New York Times. C'est dans cette lettre ouverte, Sirajuddin Haqqani explique en fait que son mouvement est effectivement tout près de signer un accord avec les États-Unis et il en détaille les modalités, notamment le fait d'être vraiment prêt à travailler avec les autres partis afghanes pour convenir d'un nouveau système politique inclusif. Alors pourquoi maintenant, effectivement, alors qu'il n'en était pas question avant? Eh bien il faut rappeler, Thomas, qu'il y a 3 jours, on a eu enfin les résultats de l'élection présidentielle afghane. Une élection dont le premier tour a quand même eu lieu, je vous le rappelle, il y a 5 mois, et ce retard, il est lié à l'examen des plaintes pour fraude, etc. Le président Ashraf Ghani a donc été réélu, mais ce résultat, il a été immédiatement contesté par l'opposition. Cette élection, elle a été marquée par une énorme abstention, elle a été marquée aussi par l'incapacité de l'ensemble des forces politiques afghanes à surmonter ces divisions, à se structurer face aux talibans. Du coup, on le comprend, la légitimité de ce nouveau pouvoir afghan, elle reste très limitée, très faible. Et les talibans, ils n'ont pas grand-chose à perdre, à dire qu'ils sont prêts à discuter avec, comme l'exigent les Américains. Le timing, ils le savent, est tout à fait en leur faveur, puisqu'on est en pleine campagne électorale aux États-Unis et que c'est une des promesses de Donald Trump que de ramener les boys à la maison, ces 14 000 soldats qui sont présents en Afghanistan. Donald Trump a besoin d'un accord en Afghanistan d'ici son élection. Et ça, les talibans, ils l'ont très bien compris.
Merci Claude Guibal. L'ancien conseiller de Donald Trump, Roger Stone, reconnu coupable d'avoir menti au Congrès dans le cadre de la tentaculaire enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016, a été condamné hier à 40 mois de prison. Une sentence qui intervient après des semaines de luttes intestines sur une affaire à lourde charge politique et qui aura notamment plongé le ministère de la Justice dans la crise. Une affaire qui ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'avant même le début de l'audience, Donald Trump avait semblé suggérer sur Twitter qu'il pourrait gracier Roger Stone. Pour la deuxième fois en seulement 8 jours, la Chine a déclaré hier qu'elle avait à nouveau modifié la méthode de comptage des patients atteints du nouveau coronavirus. En l'occurrence, qu'elle inclura désormais uniquement ceux diagnostiqués par des tests de laboratoire. Une décision qui pourrait évidemment brouiller les statistiques et surtout compliquer le suivi de la propagation de la maladie. Le dernier bilan officiel en Chine continentale fait état ce matin de 2236 morts. Par ailleurs, 889 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, soit plus du double que la veille. Et en particulier, l'apparition de nouveaux cas donc dans des hôpitaux mais aussi des prisons chinoises relance aujourd'hui les inquiétudes sur la propagation d'une épidémie. Environ un demi-millier de cas de contamination ont été recensés dans les centres pénitentiaires de la côte est de la Chine, où la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle ne s'est manifestement pas révélée efficace. Une correspondance signée Dominique André.
Depuis plusieurs jours, les familles de prisonniers chinois s'inquiétaient de l'irruption de l'épidémie dans plusieurs prisons du pays. Wang Tuangjiang est un célèbre avocat des droits de l'homme, pris dans les filets de la vague d'arrestation des avocats en 2016. Il est prisonnier dans l'une des prisons du Shandong. Son épouse Li Wanchu n'a pas pu aller le voir.
Le 13 février, je devais aller à la prison pour voir mon mari, mais la prison Linyi a annulé ma visite à cause de l'épidémie. Je ne sais pas quelles sont les mesures de prévention et de contrôle dans la prison. Depuis que l'épidémie est apparue, je m'inquiète de la situation de mon mari. Chaque jour, j'appelle parce que la prison ne peut pas me priver de ce droit. Je voudrais lui parler directement pour savoir si sa santé est bonne, surtout en ce moment où il y a un grand nombre de prisonniers contaminés dans la prison de Rensheng. J'ai très peur.
Accusé de négligence, le responsable de la justice du Shandong a été limogé. Le confinement des prisonniers représente un défi pour les autorités sanitaires. Dans le Hubei, c'est une prison de femmes qui est touchée avec 230 cas. Plusieurs gardiens ont été renvoyés. La diaspora ouïghour lance aussi l'alerte sur les risques sérieux d'une contagion dans les centres d'internement du Xinjiang avant qu'il ne soit trop tard.
Le Premier ministre irlandais a annoncé hier soir sa démission. Alors ce n'est pas véritablement une surprise, son départ était attendu depuis que son parti centriste est arrivé en troisième position seulement aux dernières législatives, à l'issue desquelles d'ailleurs aucun parti n'a obtenu de majorité. Conformément à la constitution, Leo Varadkar restera toutefois en poste jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. L'Allemagne encore sous le choc au lendemain de la double fusillade qui a visé deux bars à chicha fréquentés par des étrangers dans la ville de Hanau près de Francfort. Une double attaque dans laquelle 9 victimes innocentes ont trouvé la mort. Et ce matin, après que le procureur de la République eut confirmé que l'auteur des deux fusillades avait bel et bien agi sous le coup d'une idéologie profondément raciste, le gouvernement, pressé par des communautés qui s'estiment mal protégées, a aussitôt présenté de nouvelles mesures contre la violence d'extrême droite. Berlin prévoit notamment de renforcer la surveillance des lieux sensibles et en particulier les mosquées. Alors évidemment, on pourrait dire qu'à travers cet acte sanglant, l'Allemagne retrouve ici ses vieux démons, en l'occurrence une idéologie selon laquelle il existerait une race supérieure seule autorisée à résider dans le pays. Mais au-delà, la vraie question est de savoir pourquoi ces cas se multiplient ces derniers temps. Cette double tuerie s'inscrit en réalité dans un contexte politique tendu avec la montée du parti AfD, dont nombre de ses membres et dirigeants ne cachent plus leur position xénophobe, ou quand les idées ultranationalistes trouvent subitement un écho dans les enceintes parlementaires jusqu'à devenir pour certains aliénés socialement acceptables. Les explications de notre envoyé spécial Ludovic Piétenu.
Tous les partis politiques ont repris les mots du parquet. C'est un attentat raciste. Tous les partis, sauf un, Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite s'y est refusé. C'est l'acte délirant d'un fou. Toute forme d'instrumentalisation politique de cet acte horrible est une ineptie cynique, a par exemple commenté Jörg Meuthen, le coprésident de l'AFD. En jetant un œil à la propagande de ce parti dans cette ville de Hanau, l'AFD s'en prend régulièrement aux bars à chicha comme des lieux liés à la criminalité. Le fait que ce soit deux bars de ce type qui ont été visés en dit long sur l'efficacité du discours de l'extrême droite allemande qui, en fonction des régions, que ce soit en ex-Allemagne de l'Ouest ou de l'Est, tient compte des spécificités, aménage totalement son discours pour coller au plus près des préoccupations locales, tant que cela nourrit un discours qui permet à l'AFD d'opposer les Allemands aux étrangers ou aux Allemands d'origine étrangère. Le parti s'en satisfait très bien. L'AFD ne recule devant rien et même sous le feu des critiques de cette espèce d'union nationale que l'Allemagne a connue hier, et c'est assez rare, le parti d'extrême droite a même envisagé un rassemblement aujourd'hui dans la ville d'Hanau. Mais les autorités l'ont fait interdire, ainsi que la contre-manifestation qui était prévue. C'est demain, en revanche, à 14h, qu'une manifestation d'ampleur nationale se tiendra dans cette ville encore sous le choc, sans l'AFD, avec un mot d'ordre très clair, contre l'extrême droite et ses idées qui nourrissent la folie de certains.
Figure fracassante et tonitruante du Parti Socialiste, l'ancien ministre et sénateur Michel Charras s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie qui lui avait d'ailleurs fait quitter le Conseil constitutionnel il y a pratiquement un an. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors même si la première image que l'on retient de lui fait évidemment aussitôt ressurgir ses bretelles de bon vivant, les volutes de ses cigares, sans oublier ses lunettes de demi-lune qui virevoltaient à mesure que sa parole s'emballait, Michel Charras était d'abord et surtout, Pierre, un pilier du Mitterrandisme.
Et on savait en rencontrant Michel Charras que l'on devait se tenir à carreau, car l'homme truculent qui aimait les bonnes tables et les cigares était connu et redouté pour ses piques et répliques cinglantes, voire pour ses coups de gueule. Et si on l'invitait sur les plateaux télé et dans les colloques, c'est parce qu'on savait savait qu'il ne retiendrait pas ses coups envers les journalistes et ses ennemis politiques. Homme d'influence et surtout gardien du temple mitterrandien, Michel Charras vouait une admiration sans limite aux locataires de l'Élysée. Admiration, confiance et complicité réciproque, comme il le racontait en 2017 lors d'une conférence à l'université de Poitiers.
On lui a préparé souvent des discours comme président. Il disait toujours que ça valait rien. Et puis, Boublil, un de nos camarades, qui était son collaborateur pour ce secteur, lui avait préparé un projet de discours. Et il me dit, regardez ce papier de Boublil, ça vaut rien, essayez de me torcher quelque chose. Il était midi et il y allait à 2 heures. Alors moi, j'ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc je prends le papier de Boublil, je refais l'introduction, etc. Puis bon, je change pas grand-chose, etc. Puis je lui ai dit, vous savez, monsieur le président, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et il est allé au Palais des Congrès, il a complètement improvisé. Et en rentrant, il a dit au secrétaire général de l'Élysée, il faudra s'organiser autrement pour la préparation des discours. J'ai dû parler à partir des ruines de Boublil et des débris de Charras. Bon, j'ai dit, ça fait vraiment plaisir. Bon, voilà.
Michel Charras, c'est une vie consacrée à la politique, au service de son Puy-de-Dôme, maire de Puy-Guillaume, conseiller régional, puis sénateur. Mais c'est à l'Élysée qu'il exercera pleinement son influence, d'abord comme secrétaire général, puis comme conseiller de François Mitterrand. Une proximité telle qu'on disait de lui qu'il était l'homme le mieux informé de Paris et de la Mitterrandie. Dans les années 80, Michel Charras est un ministre du budget, respecté et redouté pour ses contrôles fiscaux. L'homme avait le cœur ancré à gauche, d'abord à SFIO, puis au Parti Socialiste, mais dans les années 2000, il s'est progressivement coupé de sa famille politique jusqu'à en être exclu, d'abord en apportant un soutien à la réforme des retraites portée par François Fillon, puis en accueillant dans sa mairie un certain Nicolas Sarkozy. Alors candidat UMP à l'Élysée, le président Sarkozy n'oubliera pas ce geste républicain en le nommant au Conseil constitutionnel. Le journal Le Monde rapporte qu'au mois de janvier, il y a quelques semaines, Michel Charras était reçu au Palais de l'Élysée pour être élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Et dans son discours, Emmanuel Macron a ce soir-là loué son dévouement sacerdotal au service de l'État, mais aussi son talent à débrouiller les situations inextricables.
Merci Pierre Neveu. La première passe d'armes en justice attendue entre Carlos Ghosn et son ancien employeur Renault n'aura finalement pas eu lieu ce matin. Le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt a renvoyé au 17 avril l'audience du litige qui oppose l'ex-magnat de l'automobile à la marque aux losanges pour réclamer une indemnité de départ à la retraite. Et à la surprise générale, cette demande de renvoi a été présentée par les avocats de l'ancien dirigeant qui avait pourtant eux-mêmes saisi les prud'hommes en référé, c'est-à-dire via une procédure d'urgence qui suppose normalement l'évidence des faits. Alors rappelons que Carlos Ghosn avait été contraint de quitter ses fonctions de PDG de Renault le 23 janvier 2019 lorsqu'il était en prison au Japon pour diverses malversations présumées. Quelques mois plus tard, l'ancien dirigeant de 65 ans avait fait les démarches pour liquider ses droits à la retraite et c'est ainsi qu'il a saisi fin décembre les prud'hommes pour réclamer une indemnité de départ de 250 000 euros. De son côté, Renault considère que Carlos Ghosn n'a pas droit à cette indemnité dans la mesure où il n'était plus salarié de l'entreprise depuis des années. Débat enlisé, recours des oppositions à toutes les astuces procédurales. Au bout d'une semaine d'échanges à l'Assemblée nationale sur les retraites, exécutifs et majorité sont face à un choix cornélien pour faire aboutir la réforme. L'arme atomique du 49-3 étant dans toutes les têtes ce matin, le secrétaire d'État au transport n'a pas complètement exclu un tel recours pour faire adopter sans vote le projet de loi, tout en précisant préférer aller au bout de ce qui est possible du débat parlementaire. À quelques heures maintenant de la fermeture du premier réacteur de la centrale de Fessenheim, invité de la rédaction aujourd'hui, Yves Marignac, expert indépendant et porte-parole de l'association Negawatt, qui entend contribuer à une moindre dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Après 42 ans donc d'exploitation, la doyenne des centrales nucléaires de l'Hexagone va être découplée du réseau. EDF arrêtera le premier du réacteur donc ce soir. Et la mise à l'arrêt de la seconde tranche interviendra, elle, 4 mois plus tard, le 30 juin. Une première question, monsieur Marignac, existe-t-il des risques liés à ce démantèlement ?
Alors les risques liés au démantèlement lui-même sont évidemment bien moindres que ceux que représentent les réacteurs pendant leur exploitation. Il y a néanmoins une phase un peu critique de quelques années pendant laquelle on sort les combustibles des réacteurs eux-mêmes et on les entrepose dans ces fameuses piscines qui sont à proximité sur la centrale. Donc ça, c'est quelques années. Et puis ensuite, on évacue ces combustibles et on passe au démantèlement proprement dit. Et là, il reste des risques, notamment pour les travailleurs, à cause de la contamination résiduelle sur les équipements, mais beaucoup moins de risques une fois que le combustible est parti pour les populations avoisinantes.
Au-delà du risque du démantèlement, et sans refaire le débat du pour ou contre la fermeture, est-ce que cette décision de mise à l'arrêt a bien été préparée, bien anticipée, à la fois par EDF et par les pouvoirs publics ?
Alors non, elle a été repoussée plusieurs fois, puisqu'on se souvient que c'est un engagement de François Hollande en 2012, de fermer Fessenheim dès 2016. Elle a été repoussée plusieurs fois, de la même manière d'ailleurs que la fermeture d'autres réacteurs a été repoussée. On sait que le gouvernement a voté, qu'une loi a été votée l'an dernier pour repousser à 2035 l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50%. Alors même qu'il était fixé à 2025 depuis 2015, donc en 5 ans, on a repoussé l'échéance de 10 ans, ce qui est évidemment pas le signe d'une proactivité. La fermeture de Fessenheim, non, elle a été mal préparée parce qu'il y a une forme de résistance d'EDF et en partie du gouvernement à le faire. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire, il y a quelques semaines, a publié un avis critiquant assez vertement la préparation de ce démantèlement par EDF. Ça n'est pas non plus dramatique parce qu'il reste quelques années pour effectivement se préparer de manière opérationnelle, mais c'est symptomatique d'une vraie difficulté de l'industrie nucléaire à se projeter dans ce que marque en fait cette fermeture de Fessenheim, c'est-à-dire le début d'un déclin, puisque derrière ce réacteur il va falloir en fermer d'autres, et que la part du nucléaire et son rôle dans la politique énergétique française ne sera plus jamais la même, plus jamais celle qu'on connaît depuis le démarrage de ce grand programme dans les années 70.
Alors justement, vous le disiez, entre 2027 et 2035, 12 réacteurs vont également s'arrêter avec un processus un peu différent, puisque sur ces sites, il n'y aura pas de fermeture totale des centrales. On sait que ça va arriver. Est-ce que cette fois-ci, ces fermetures-là, elles sont mieux anticipées ?
Disons que, en tout cas, on a davantage de temps pour s'y préparer. Moi, ce qui m'inquiète davantage, avant de répondre à cette préparation des fermetures, c'est le fait que on se projette dans la prolongation de fonctionnement des 44 autres qui, en 2035, auront en moyenne 50 ans de fonctionnement. Il faut se souvenir qu'ils étaient conçus pour 40 ans seulement. Et donc, les difficultés, elles vont être au moins autant du côté de ces prolongations que du démantèlement, mais sur les réacteurs à fermer. Effectivement, d'abord, le fait de fermer des réacteurs sur des centrales sans fermer brutalement l'ensemble du site va certainement faciliter techniquement et en matière aussi d'acceptabilité locale les choses. Et puis, entre-temps, le démantèlement de Fessenheim va créer du retour d'expérience qui devrait faciliter effectivement techniquement les autres opérations.
Alors cette diminution de la part du nucléaire, elle a un coût énorme. On a vu passer des chiffres importants pour le démantèlement, 40 milliards, 75 milliards. On n'a pas vraiment de chiffres définitifs. Avec quelles conséquences pour EDF, pour les finances publiques par extension, et puis pour le prix de l'énergie ?
Alors il y a effectivement avec ce premier démantèlement donc qui va commencer dans quelques années après la fermeture de Fessenheim, deux énormes enjeux. Le premier, c'est la vérité sur le prix, sur le coût du démantèlement, puisque on sait qu'aujourd'hui EDF prévoit quelque chose de l'ordre d'un peu plus de 300 millions d'euros par démantèlement de réacteurs, ce qui est environ trois fois moins que le retour d'expérience qu'on observe par exemple en Allemagne. Donc même à supposer qu'on fasse mieux, il y a quand même plusieurs centaines de millions qui vont manquer par réacteur, et fois 58 réacteurs, ça fait très vite une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de milliards. Donc il y a un sujet sur les provisions et la situation financière d'EDF. Au-delà de ça, EDF en fait est une entreprise qui aujourd'hui en France est confrontée à la perspective inéluctable du fait que ces 58 réacteurs qui aujourd'hui génèrent des recettes, pas nécessairement des bénéfices mais au moins des recettes, vont générer demain massivement des charges, et aucune entreprise en fait privée ne peut faire face à ça, d'où la réflexion engagée depuis un moment maintenant sur le projet qu'on appelle Hercule, l'idée de nationaliser, de renationaliser en fait le parc nucléaire, qui pourrait bien devenir en fait un projet de société de défaisance pour transmettre à la communauté nationale, donc in fine aux contribuables, les charges énormes de ce démantèlement.
Va se jouer en même temps le développement des énergies renouvelables. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un développement massif de l'éolien, du photovoltaïque. Où en est-on aujourd'hui dans la transition énergétique en France?
On est en France très en retard. Un chiffre, on devait atteindre en 2020 23% d'énergie renouvelable, on est à peine à 17%, donc on est très en retard dans le développement de l'éolien terrestre, plus en retard encore dans le développement de l'éolien offshore. La France, qui a un potentiel énorme, n'a toujours pas d'installation opérationnelle dans ce domaine. On est très en retard aussi sur le photovoltaïque. Et le gouvernement, on l'a vu cette semaine d'ailleurs avec les déclarations de la ministre Elisabeth Borne au Sénat, où elle critique un développement anarchique de l'éolien, ce qui est bien la preuve en creux que le gouvernement n'assure pas le développement planifié et harmonieux dont on a besoin. Eh bien, on voit bien que le gouvernement a un double langage. D'un côté, il y a des objectifs très importants, mais de l'autre, on ne met pas les moyens, ni réglementairement, ni financièrement, pour assurer ce développement des renouvelables.
Merci Yves Marignac, porte-parole, je le rappelle, de l'association Negawa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Adrien Toffolet. On termine avec un mot de météo cet après-midi. Le temps sera à l'accalmie avec partout de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.